bien participer, accueillir, vivre la parole de Dieu. C'est notre seule mission sur la terre. Ce n'est pas de nous enrichir, c'est de devenir riche en Dieu. J'aimerais vous parler, je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde ce matin, quand même. Je vous félicite, hein. Je crois qu'il faut s'encourager mutuellement. Parce que c'est pas facile de venir à pied, de faire un kilomètre, de garer sa voiture très loin. Mais tout ça, on le fait pour Dieu et sans murmurer. Bon, ça fait partie des choses naturelles. On n'est pas en temps de guerre, on n'est pas en temps de détresse. Bon, nous allons lire ensemble une histoire que j'avais bien travaillée pour tous les enfants, mais y a-t-il des enfants parmi nous ? On va demander qu'ils se lèvent. C'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà, quand même. Hein? Bon, écoutez, félicitations aux enfants. Surtout qu'ils ont dormi une heure de plus, quand même. C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, je voudrais vous parler de Naaman, ou d'une petite fille assez remarquable. On a besoin de parfois laisser la vérité venir par la bouche des enfants. Ça vous est jamais arrivé d'entendre des enfants vous dire des vérités ? Papa, pourquoi tu fais ça ? Maman, où vas-tu ? Voilà. Nous allons regarder dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Vous connaissez bien cette histoire de Naaman. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et je vous renouvelle pour vous les félicitations de toute l'Assemblée. Voilà, bravo, vous avez bravé la tempête et la distance. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, » c'était à l'époque la capitale d'Israël, « le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie. » Et j'enverrai de lettres au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, c'est un signe de détresse, il est désespéré par la lettre qu'il reçoit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs, à ce Naaman, chef de l'armée, donc sûrement des soldats, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit à l'heure et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il était pur et il fut pur. Amen. Bénis ta parole, Seigneur, ce matin, afin qu'elle nous conduise dans toujours plus de vérité, car nous voulons marcher en conformité avec ce que tu dis toute notre vie. Amen. Et nous revoilà en guerre entre Israël et la Syrie. C'est l'actualité, hein. On a l'impression que ça n'a pas changé. Et à cette époque, il y avait sur cette frontière entre Israël et la Syrie, tout au nord du pays, il y avait des tensions, il y avait des échauffourées, il y avait des conflits. Les Syriens mettaient le feu, les Syriens emmenaient des jeunes captifs en esclavage, les Syriens volaient les récoltes, maltraitaient les gens, enfin, c'est un peu ce qui a toujours existé, on est dans l'actualité. Et tout ça, c'était pourquoi? Parce qu'il y avait à la tête du pays un homme redouté, un homme très fort qui s'appelle le général Naaman, qui avait du succès, qui avait une bonne armée et qui terrorisait toute la région. Alors voyez-vous, ce conflit de frontières, ça conduit à ce qu'une petite fille soit emmenée en captivité. Quand les parents qui sont dans la frontière la plus importante, le père et la mère se disputent, se battent, les enfants trinquent. Dans une église aussi, nous sommes à la frontière de la fraternité. Et si nous ne nous entendons pas bien, si nous sommes fâchés, ce sont nos enfants qui vont se décourager et nous abandonner et abandonner l'église. Donc il faut faire attention. Tous nos gestes, toutes nos décisions ont des conséquences. Alors, ce Naaman qui était un champion national, il était vénéré comme un joueur de football. Ce Naaman est-il vraiment un grand champion? Quand on est capable de voler une petite fille, est-ce que c'est vraiment être un grand champion? Quand on est capable de faire peur aux enfants, de faire peur à une petite fille, moi j'appelle ça un lâche. Mais quand même, au niveau militaire, c'est vrai, c'est un guerrier. Mais ce grand général, il avait une grande faiblesse. Il était malade de la lèpre. La lèpre, c'est la peau, c'est du visage, des oreilles, du nez, des mains. C'est la peau qui part en poussière, je parle pour les enfants. Et par conséquent, il était contagieux. Il ne pouvait pas s'approcher de ses enfants. Il ne pouvait pas s'approcher de personne, il doit se tenir éloigné, en retrait, en recul, isolé. Il doit cacher sa maladie. Les lépreux mettaient un voile sur la tête. Il faisait peur, aux enfants. Peut-être qu'il faisait peur à cette petite fille, la petite fille d'Israël, qui était esclave chez lui. Mais la petite fille, elle garde une foi remarquable. elle me parle, cette petite fille, parce que dans la tourmente qu'elle vit, elle ne se décourage pas. Elle dit même au roi, au général Naaman, elle ne lui dit pas « tant mieux si tu es malade, c'est Dieu qui t'a puni ». J'ai entendu ça chez les chrétiens. « Tant mieux, c'est Dieu qui t'a puni ». Elle ne dit pas ça. Elle dit simplement son témoignage. Elle ne demande même rien pour elle. Elle ne demande pas de faveur pour elle, pour retourner chez sa mère. Elle dit seulement au roi, « Si mon Seigneur Naaman était à côté du prophète d'Israël, il serait guéri. » Elle ne parle pas de Dieu même. Regardez comme son témoignage n'est pas parfait. Elle ne parle pas de Dieu, mais elle parle de ce qu'elle a appris dans son enfance, de ce qu'elle connaît de cet homme Élisée, le prophète d'Israël. Cette petite fille, malgré les circonstances difficiles, garde une foi limpide, une foi claire, lumineuse. Ce n'est pas une petite fille qui juge. Elle est certainement beaucoup plus heureuse que le général, parce que cette petite fille, elle vit quelque chose avec Dieu, et le général, lui, malgré ses victoires, malgré son argent, malgré sa gloire en Syrie, le général, il est condamné à mort. La petite fille, elle a tout l'avenir encore devant elle. Alors, elle témoigne avec sobriété. Elle ne fait pas des grandes esbroufes. Elle témoigne de la simplicité de s'approcher de ce prophète et d'être guéri par Dieu. Si tu t'approches de lui, tu seras guéri. C'est une certitude pour elle. C'est magnifique. Alors, Naaman n'a pas méprisé. C'est un signe d'humilité. Mais pour que les gens accueillent bien notre témoignage, il ne faut pas les bousculer, il ne faut pas les effrayer, il ne faut pas faire d'esbrouf, sinon ils ne vont pas accueillir notre témoignage comme crédible, sérieux. Cette petite fille toute simple qui dit « si mon Seigneur était près du prophète, il serait guéri ». Ce témoignage a suffi pour que Naaman écoute le conseil. Il aurait pu dire, mais tu parles au général de l'armée de Syrie, mais pour qui tu te prends? Le général de l'armée a écouté la voix de cette petite fille. Ça, c'est un signe d'humilité, d'esprit touché, d'accueil. Et puis Naaman, il a un supérieur, c'est le roi de Syrie, et il a dit au roi de Syrie, ben, écoute, la petite fille m'a parlé comme ça et comme ça, est-ce que tu ne pourrais pas faire une lettre de recommandation pour le roi d'Israël, pour que je puisse m'y rendre sans difficulté? Donne-moi un visa, donne-moi un passeport. Je vais aller chez nos ennemis d'Israël, parce qu'ils étaient en guerre, hein. Et puis là, je verrai. Et le roi de Syrie, eh bien, il a fait un courrier qu'il a remis à son général pour le roi d'Israël. Et puis, il a pris avec lui, ce général, 350 kilos d'argent, c'est exactement ce que vous avez chez vous, 350 kilos d'argent, il a pris 70 kilos d'or, dites donc, il a pris 10 vêtements de rechange, parce que dans la route, on se salit, et lui, il voulait être frais, parfumé, bien disposé, il veut montrer quand même qu'il est sérieux, hein. Un homme sérieux, bien c'est un homme qui se lave, qui se change, qui change ses vêtements, qui change sa façon d'être, et qui change ses habitudes, sa façon de parler, sa façon de se conduire. Voilà. Un homme, c'est quelqu'un qui peut changer. Alors, il a pris toute cette richesse, cet or, cet argent, par kilo, par dizaines de kilos, et puis il est allé voir le roi d'Israël en disant, voilà, le roi de Syrie te remet cette lettre. Mais quand le roi d'Israël a vu la lettre, je résume, veux-tu guérir mon serviteur? Il y a une erreur d'aiguillage, le facteur s'est trompé, la poste n'était pas au rendez-vous. Au lieu d'aller voir Élisée, il est allé voir le roi d'Israël. Il s'est trompé de porte, il s'est trompé d'aiguillage. Et le roi d'Israël, il a dit, ah, il me cherche encore des histoires. je ne peux pas guérir un lépreux. Est-ce que je suis Dieu pour faire ça? Pour faire vivre, faire mourir? Il me cherche la guerre, il veut la guerre. Voyez-vous, une erreur d'aiguillage. Ça peut arriver dans le mariage, une erreur d'aiguillage. Ça peut arriver dans sa vie conjugale, dans sa vie professionnelle. Ça peut arriver dans son voisinage, dans l'église. On peut faire des erreurs. Et là, il y avait une belle erreur parce que le roi, il a pris ça très mal. Il s'est même dit, il me veut la guerre. Eh bien, il aura la guerre. Je rajoute ça, mais c'est un peu ça. Alors, il a déchiré ses vêtements tellement il était en colère. Et Élisée n'était pas loin. Ce que je ne comprends pas, c'est que le roi d'Israël, qui habitait pas très loin du prophète Élisée, s'est plus rappelé. Il a oublié, trou de mémoire, qu'il y avait à côté de chez lui le prophète qui, oui, guérissait. Il a guéri, il a ressuscité un petit garçon, il a transformé une eau amère en eau douce, il a multiplié de l'huile, il a multiplié des pains. C'était un homme de Dieu qu'on respectait, un homme de Dieu connu. On ne se moquait pas de lui. Il a oublié que Élisée habitait près de chez lui. Vous savez, moi, j'essaie de lire la Bible et de l'apprendre tous les jours. Parce que je ne me fie pas à ma mémoire. Ma mémoire, je l'ai encore aujourd'hui. Mais il faut toujours que je l'entretienne. C'est comme le jardin, il faut toujours mettre de l'eau. Sinon, le soleil va tout dessécher. Et avec les années, on peut oublier des vérités. On peut oublier des choses élémentaires. Et le roi de Syrie avait oublié qu'à côté de chez lui, son voisin, c'était Élisée, qui lui était un homme qui faisait, c'est pas le mot, par lequel Dieu faisait des miracles. C'est pas un guérisseur, par lequel Dieu faisait des miracles. Alors, il a déchiré ses vêtements, le roi d'Israël, et Élisée l'a pris. Qu'est-ce qu'il a, le roi? Qu'est-ce qu'il a à se lamenter comme ça? Dis au roi, il dit ça à son serviteur, dis au roi d'Israël de faire venir Naaman chez moi, et il verra qu'il y a un prophète en Israël. Alors, le roi dit, va chez Élisée là-bas, 43 rue Victor Hugo, ou 13 rue Martineau, si vous voulez, va chez Élisée et tu verras. Alors, Naaman arrive devant la maison d'Élisée, avec ses kilos d'or, ses kilos d'argent, ses chevaux, son char, ses serviteurs, ses beaux vêtements, il a dû mettre ses meilleurs vêtements, il arrive, il s'attendait à être reçu avec la fanfare, avec des pots de fleurs, avec le feu d'artifice. Il s'attendait à une réception médiatique. Il s'attendait à avoir la première place sur Antenne 2. J'arrive chez le prophète. Il s'attendait à tout ça. Et voilà que Naaman lui ouvre pas, pardon, Élisée ne lui ouvre pas la porte. Je vous pose une question. C'était la question que je voulais poser à tous les enfants, mais je redonnerai la prédication. Faut-il secourir Naaman? On va répondre en levant la main tout à l'heure. Non, c'est un lépreux. Il y a des lépreux en Israël, quand même. Il y a même des femmes lépreuses. Faut-il secourir Naaman? C'est un ennemi d'Israël. Il n'aime pas les enfants de Dieu, d'Israël. Faut-il secourir Naaman qui a volé une petite fille qui n'a pas retrouvé ses parents et les parents pleurent. Il faut essayer d'aller plus loin et d'imaginer. La petite fille, elle n'est pas là, toute guillorette, elle est malheureuse. Ses parents sont malheureux. Faut-il secourir Naaman en sachant qu'il y a d'autres personnes en Israël qui aiment Dieu et qui sont lépreux? On lèverait la main? Je ne sais pas. Qui est pour que Naaman guérisse? 3, 4, 5, 8. Bon, ok. Alors, qui est pour que Naaman ne soit jamais guéri? Allez-y. 1, 2. C'est une question, hein, quand même. Il faut se mettre dans l'histoire. Acceptez-vous que ce Naaman, qui est un homme épouvantable, qui détruit nos frontières, nos enfants, qui fait peur à nos enfants, frappe à la porte d'Élisée, et Élisée ne répond pas. Élisée se tient à distance. Tout à coup, la porte va s'ouvrir, la porte de la maison d'Élisée. Et qu'est-ce qui va sortir ? Pas le prophète, un serviteur. Oh, Naaman, il est outré. Il est outré. Un petit serviteur qui ouvre la porte et qui lui dit un petit message en quatre mots, « Plonge-toi dans le Jourdain cette fois !» Et va-t'en. Colère de Naaman. Pour qui il me prend ? Je vais lui montrer que je suis un grand personnage, que je mérite tout le respect et que je suis venu le rencontrer, avoir un entretien, être filmé, médiatisé. J'aurais pensé qu'il aurait mis sa main sur moi, qu'il aurait agité sa main. J'aurais pensé qu'il aurait prié pour moi. Il me dit simplement, plonge-toi dans le Jourdain. Puis il n'est pas content du tout parce qu'il dit l'eau du Jourdain. Vous connaissez le Jourdain ? L'eau du Jourdain, à certains moments, elle est sale, boueuse, brune. L'eau du Jourdain, elle charrie des alluvions et ce n'est pas une eau agréable pour se baigner. Alors qu'en Syrie, il y a des fleuves qui descendent des montagnes qui sont pures, parfaits. L'eau est potable, on peut boire l'eau. Alors, Naaman, il dit, en Syrie, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut que je vienne jusqu'ici pour boire l'eau du Jourdain qui ne vaut pas un sou ? J'ai l'impression que Naaman, il veut mériter, il veut payer. Il a des kilos d'or, des kilos d'argent. J'ai l'impression qu'il veut être médiatisé. Il veut qu'on sache qu'il a fait quelque chose, qu'il a apporté sa pierre, sa contribution. Il a pensé à récompenser, à payer, peut-être même payer Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas l'Évangile, ça. L'Évangile, c'est « Plonge-toi dans le Jourdain, obéis sans comprendre. » Obéis par la foi et confiance dans la parole de l'homme de Dieu. Ça, c'est le chemin de Dieu. Plonge-toi, baptise-toi, plonge-toi dans cette rivière boueuse et tu seras guéri. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'avez pas vraiment répondu, faut-il guérir encore le soldat Naaman ? Le Jourdain, c'est vrai. Il n'avait rien pour attirer les regards. Ce n'était pas le parpaing de la Syrie. C'est comme Jésus. Le Jourdain représente Jésus. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Et quand on le suivait sur les collines de Galilée, on avait devant soi un homme qui était parmi les hommes, homme parmi les hommes, qui n'avait ni éclat ni beauté. Mais ses paroles transperçaient, ne faisaient pas des grandes démonstrations, mais ses paroles descendaient comme une rosée pure au fond des âmes. Elle séchait les larmes, elle réconfortait, elle remettait ensemble le mari et la femme, les enfants et les parents, elle guérissait l'aveugle et le boiteux. Voilà les paroles de Jésus. Jésus, je le compare aux eaux du Jourdain, sans belle apparence, mais dans ce Jourdain, il y a Dieu qui est présent pour donner la vie. Alors Naaman se fâche. Naaman se fâche et tout va rater. Et je vous dis d'avance, c'est que si Naaman n'est pas guéri, il va y avoir une guerre. Parfois la guerre, ça tient à peu de choses. Une guerre entre la Syrie et Israël. Alors Naaman, il va repartir chez lui, il ne va pas être guéri, ça va être la confusion. On va dire, Israël, c'est de la bricole, ça ne vaut rien, il faut détruire Israël. Heureusement, voyez-vous, dans tous nos aiguillages qu'on a ratés, pour ton mariage, pour ton mari que tu étais trompé, pour tes enfants que tu as mal dirigé, toutes ces erreurs d'aiguillage, je dis, Seigneur, on ne les fait pas parce que tu fais quelque chose forcément, tu rattrapes tout, on assume nos conséquences. Mais Seigneur, dans ces erreurs d'aiguillage, il y a quand même ta grâce. afin que les choses n'aillent pas trop loin. D'abord, tu as permis qu'il y ait cette petite fille, déjà. Ce n'était pas prévu. Cette petite fille qui témoigne dans le pays de Syrie. Eh bien, il va y avoir quelqu'un qui va rattraper tout. C'est un serviteur du général Naaman. Certainement un soldat qui va dire à son général, on ne parle pas comme ça au général, mais enfin, mon général, permettez-moi que je vous dise une parole. Si le prophète vous avait demandé quelque chose de difficile, par exemple, 300 kilos d'argent, mais vous les avez déjà. Bon. 70 kilos d'or, mais vous les avez déjà. Bon. 10 vêtements de luxe, vous les avez déjà. Mais si vous avez demandé quelque chose de très difficile, est-ce que vous l'auriez fait pour être guéri? Parce qu'il est prêt à tout pour être guéri. La santé, c'est tout. Profitons bien de nos belles années et que ne gaspillons pas nos santé, ne gaspillons pas nos jours, parce que la santé, quand on ne l'a pas, c'est une catastrophe pour servir Dieu, la famille, les enfants. Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, l'aurais-tu fait? Oui, je l'aurais fait. Tout ce qu'il m'aurait demandé, je l'aurais fait. Même le plus compliqué. Alors, mon général, pourquoi vous ne faites pas ce qui est facile? Pourquoi vous êtes prêt à monter sur le Mont Blanc alors qu'il vous demande tout simplement de plonger 7 fois dans le Jourdain? Puis pas plonger d'un plongeoir. Simplement, vous descendez dans l'eau, vous remontez, évidemment devant vos soldats, bien sûr, qui vont rigoler, mais enfin... Bon, vous descendez dans l'eau, vous remontez 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après vous serez guéri. J'aime l'humilité de ce Naaman. Devant la petite fille, il a dit « Oui, je reconnais ce que tu me dis ». Devant les soldats, il dit « Oui, je reconnais ce que vous dites, je vais le faire ». Naaman est simple, humble devant ses soldats, devant son armée. Et il va aller au Jourdain, il y a 1 jour de marche, mes amis. Le Jourdain, il n'est pas à Samarie, il est plus loin. Il faut encore faire 1 jour de marche. C'est compliqué, hein. On a l'impression que plus il avance et plus l'horizon recule. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Et je pense qu'il nous faut continuer le chemin, même s'il y a des obstacles. Il faut savoir que Dieu est là avec nous et il va faire une journée de marche. Il va aller au Jourdain. Élisée n'est pas là pour le regarder, le filmer, l'applaudir, pour trembler devant lui. Élisée n'est pas là. Il y a juste ses soldats, c'est tout. Et là, il se plonge. 1 fois. 2 fois, on y va? 2 fois. Peut-être que la 5e fois, il s'est regardé, rien n'a changé. Oh, 6e fois. Oh, ses mains sont toutes lépreuses, son visage est lépreux, c'est poudreux, c'est farineux. 6e fois, oh, rien n'a changé. Oh, pourvu que ça marche. 7e fois, voilà. À l'instant, Évangile de Marc, chapitre 2, à l'instant, il fut purifié de sa lèpre. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais soigné de lépreux, j'en ai jamais vu même. Mais je sais que la lèpre est une destruction des tissus humains. Et guérir la lèpre en un instant, ça me dépasse. Pour moi, c'est comme une résurrection qui se fait en un instant. On ne ressuscitera pas avec des séances de kiné. Hein. Dans un instant, nous serons ressuscités. Eh bien, à l'instant même, il fut purifié, et mieux, il fut guéri. Sa chair est devenue comme la chair d'un jeune enfant. Il a rajeuni. Il rajeunit comme l'herbe, comme l'aigle. Frères et sœurs, Naaman est confondu. Il veut payer, bien sûr, le prophète. Il va vers la maison du prophète qui dit « Garde ton argent, je n'en veux pas. quand on est un homme de Dieu, quand on sait ce qu'on a reçu de Dieu, nous donnons gratuitement. Parce qu'on a reçu gratuitement, et si on veut que la grâce de Dieu nous accompagne plus loin, il faut être dans la gratuité. C'est la grâce. Les réformateurs avaient compris la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Donc, gratuit pour toi, mon général en chef de l'armée de Syrie, c'est gratuit ta guérison. Tu repars chez toi, tu es changé, transformé. Salut gratuit. Ça dépasse toutes nos prévisions. Non seulement un étranger, un homme qui n'était pas très commode avec Israël a été guéri, mais il a été guéri gratuitement. Alors, en conclusion, on a plein de leçons à tirer, j'en ai tiré quelques-unes. En conclusion, je pense qu'on va dire, restons près du Seigneur, qui peut nous surprendre. Il peut venir par des chemins où on ne l'attend pas. Et il peut nous étonner dans beaucoup de domaines. Moi, j'ai décidé de rester avec lui, et vous ? À ne pas être gêné par les difficultés, c'est un parcours d'obstacles. Il y a toujours parfois des obstacles imprévus même. Chaque jour, j'ai un obstacle. Chaque jour, j'ai ma peine. Mais chaque jour, j'ai la présence de Dieu qui m'illumine. À chaque jour suffit sa peine. Il n'a pas dit ses peines. Et parfois, c'est plusieurs. Mais on continue. Restons près du Seigneur. Attendons-le. Et le Seigneur viendra nous chercher et nous guérir. Amen. Il y a des frères et sœurs qui ont besoin de guérir parmi nous. Pas seulement d'une lèpre, enfin quoi qu'il y ait des lèpres au niveau du cœur. Il y a des rancunes, il y a des violences, il y a des mensonges. Il y a des choses qui répugnent, qui repoussent les gens. Seigneur, guéris-nous. Il y a peut-être aussi des lèpres, des choses du passé qui nous collent à la peau, comme on dit, et on ne peut pas s'en séparer. On est lié parfois par des mauvais souvenirs, par des engagements néfastes, funestes, et puis on ne peut plus faire marche arrière, on a commis des erreurs. Eh bien, frères et sœurs, nous avons en Israël un Dieu qui est avec nous. Amen. Naaman, je ne vous l'ai pas dit, il a dit « Dieu n'est qu'en Israël ». Enfin, il voulait dire « le Dieu d'Israël, c'est vraiment le vrai Dieu ». Il s'est converti à Dieu, baptisé et converti. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je vais prier très simplement, mais avec toute la vérité de la parole de Dieu, pour que parmi nous, que personne ne reste lépreux, que personne ne devienne contagieux par sa méchanceté ou son incrédulité. Ou, je ne sais pas, il y a des choses qui sont contagieuses. On peut contaminer une église. On peut contaminer une famille, on peut contaminer des gens. On peut être toxique et contaminer les autres. Alors, je prie pour vous. C'est un message pour moi, ça. C'est un message pour chacun de nous. Seigneur, nous ressemblons un peu à Naaman. Nous voudrions ressembler à cette petite fille qui avait ce témoignage limpide et ferme. Nous voudrions ressembler à Élisée, qui gardait confiance et qui n'a pas pris aucune gloire pour lui, qui se cachait même dans sa maison pour ne pas être médiatique, mais il restait discret. Seigneur, je te prie, donne-nous d'entendre les leçons de cette histoire, parce qu'il y a dans cette ville, dans les campagnes autour de nous, il y a des lépreux, il y a des gens qui sont mal dans leur cœur, qui sont dans les dépressions, les burn-out, qui sont mal dans leur travail, mal dans leur famille, dans leur couple. Je te prie parce qu'il nous faut des Élisées, il nous faut des hommes forts, stables, paisibles, il nous faut des petites filles aussi, et des petits garçons qui suivent Dieu, qui sont attentifs et qui proclament avec la simplicité de la foi la parole de Dieu. Merci pour ta parole de ce jour, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous allez bien? Ça va? Amen pour cette parole ?